Bonjour, vous êtes sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et c'est Clap, Clap, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité cinématographique des écrans mensaux avec autour des micros Pierre Barry.
Bonjour.
Bonjour Pierre et Michel Lafon. Cette semaine, il y a 8 nouveautés sur les écrans mensaux. On commencera par Il reste encore demain, puis Heureux gagnant, Les rois de la piste, Dans la peau de Blanche Welbeck, Chronique de Téhéran, tout cela on l'a vu, La nouvelle femme on n'a pas vu, Scandaleusement votre on a vu et The Sweet East on n'a pas vu. Pour ce qui est de la programmation musicale, je me fais un peu plaisir parce qu'Il reste encore demain, c'est de la chanson italienne et j'aime beaucoup la chanson italienne. On va écouter beaucoup de chansons italiennes mais aussi on va entendre des titres qu'on entend dans Heureux gagnant. On commence donc par Lucio Dalla, un excellent chanteur italien, et son titre c'est La Sera dei Miracoli, le soir des miracles, je suppose qu'elle doit se dire comme ça, sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans.
È la sera dei miracoli, fai attenzione. Qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro, della luna che sta per cadere, e la gente corre nelle piazze per andare a vedere. Questa sera così dolce che si potrebbe bere, da passare in 100.000 in uno stadio, una sera così strana e profonda, che lo dice anche la radio, anzi la manda in onda, tanto nera da sporcare le lenzuola, è l'ora dei miracoli che mi confonde, mi sembra di sentire il rumore di una nave sulle onde. Si muove la città. Con le piazze, i giardini e la gente nei bar. Galleggia e se ne va. Anche senza corrente camminerà. Questa sera vola, le sue vele sulle case sono mille lenzuola. Ci sono anche i delinquenti, non bisogna aver paura ma stare un poco attenti. A due gli innamorati sciolgono le vele come i pirati, e in mezzo a questo mare cercherò di scoprire quale stella sei, perché mi perderei se dovessi capire che stanotte non ci sei.
La Sera dei Miracoli, Lucio Dalla, c'était l'interprète de Caruso qu'avait repris ensuite Florent Pagny. Et cette chanson, on l'entend dans le film Il reste encore demain, c'est justement le moment de parler d'Il reste encore demain. C'est un film qui est proposé uniquement par les cinéastes, 2 séances par jour. Pour ce film, Paola Cortellesi, elle est à la fois actrice, réalisatrice et scénariste de ce film. Elle est née en 73, elle est très connue en Italie. Moi, je n'avais jamais entendu parler d'elle, mais elle est très connue en Italie. Il paraît que c'est une humoriste, imitatrice, et donc là, elle passe à la réalisation de longs métrages. Et le film a obtenu un immense succès aux États-Unis, en Italie, puisqu'il a battu Barbie et Oppenheimer avec plus de 5 millions d'entrées. Pierre nous en dit plus sur Il reste encore demain.
Durée 1h58, le titre italien C'è ancora domani. Le synopsis, il est assez long. Mariée à Ivano, Delia, mère de 3 enfants, vit à Rome dans la seconde moitié des années 40. La ville est alors partagée entre l'espoir né de la libération et les difficultés matérielles engendrées par la guerre qui vient à peine de s'achever. Face à son mari autoritaire et violent, Delia ne trouve du réconfort qu'auprès de son amie Marisa, avec qui elle partage des moments de légèreté et des confidences intimes. Leur routine morose prend fin au printemps, lorsque toute la famille en émoi s'apprête à célébrer les fiançailles imminentes de leur fille aînée, Marcella. Mais l'arrivée d'une lettre mystérieuse va tout bouleverser et pousser Delia à trouver le courage d'imaginer un avenir meilleur et pas seulement pour elle-même. La revue de presse, Cinémateaser avec Emmanuel Spadacenta. Pas étonnant que la jeune génération italienne ait été particulièrement sensible à « Il reste encore demain », se déploie au fil du film l'intelligence redoutable d'une femme devant et derrière la caméra qui va déjouer les pièges d'un système patriarcal et vieillissant en multipliant les faux-semblants. Le Parisien avec Pauline Conradson. La force de ce film féministe, c'est qu'il traite d'un sujet sombre de façon très originale, oscillant entre humour, légèreté et drame. Les scènes de violence sont dansées, les personnages font sourire, autant qu'ils peuvent nous glacer, et le twist final est bien amené. Le film porte un souffle, une énergie qui fait un bien fou. Le Point, avec ce film qui trouve le juste équilibre entre rire et larmes, Paola Cortellesi signe le retour de la grande comédie italienne, celle qui parle de la réalité. La Croix, avec Corinne Renoux-Nativelle, dans cette démonstration appuyée des méfaits du patriarcat, père et fils devisent tranquillement du nombre et de la force des coups à porter sur l'épouse pour plus d'efficacité. Le récit semble entraîner le spectateur vers une issue donnée avant une embardée finale inattendue, le fameux « Demain » du titre. Le monde, si sombre soit-il, est parfois glaçant. Le film contourne le drame par l'humour et l'usage d'artifices formels, conduit avec vitalité, illuminé d'instants de folle gaieté, teinté d'une ironie quasi burlesque. Il reste encore demain, se tient sur le fil d'une tragédie-comédie qui a le mérite de laisser entendre, au milieu des vieilles voix du passé, l'espoir d'un avenir meilleur. Et enfin, Libération, avec Sandra Onana. On veut bien se réjouir de l'existence de cet objet de synthèse d'un goût très incertain si on obtient une dispense pour le suivant.
Oui, bon, voilà, donc Il reste encore demain, c'est prévu, enfin c'est pas prévu, c'est projeté au cinéaste avec 2 séances par jour. On est donc à Rome, dans un quartier populaire de l'Italie, de l'immédiat après-guerre. C'est donc le film, la chronique de la vie de Delia qui multiplie les petits boulots en plus de s'occuper de son foyer avec ses 3 enfants. Alors, ses 3 enfants, il y a une fille aînée et 2 garçons, et puis un beau-père, grabataire, et surtout un mari, Ivano, un rustre de la pire espèce qui la bat comme plâtre dès le réveil et sous n'importe quel prétexte. C'est aussi à ce moment-là où la famille s'apprête à célébrer les fiançailles de l'aîné, événement qui va donc événement important parce qu'elle va quitter la famille et donc c'est le moment aussi où arrive une mystérieuse lettre, une lettre qui va changer beaucoup de choses dans la façon dont Delia envisage l'avenir. Voilà, ça c'est pour l'histoire. C'est un récit, c'est un film qui est un récit d'émancipation, émancipation à bas bruit, dont l'épilogue vous surprendra sans doute autant que moi, parce que le film nous entraîne sur une fausse piste et s'achève par un twist, c'est-à-dire quelque chose qu'on n'a pas vu venir et pourtant hautement symbolique d'une forme de libération. Alors, pour ma part, je trouve ce twist très malin, mais tout de même quand même très artificiel, mais je peux pas vous en dire plus, sinon on vous spolie complètement, on vous spoil plutôt plus exactement le film. Voilà. Mais avant d'en arriver là, avant d'arriver à ce twist final, avant d'arriver là, le film décrit la vie quotidienne de cette femme soumise à la toute-puissance d'un homme qui cumule tous les défauts de la terre, digne héritier de ce qui semble être une longue lignée de brutes épaisses dans sa famille. Pour la réalisation, le film est un hommage à 2 courants majeurs du cinéma italien, le néo-réalisme pour cette description du petit peuple romain au sortir de l'après-guerre, et puis c'est aussi la comédie comédie époque Dino Rizzi, Mario Monicelli, c'est-à-dire les années 50-60. Le film est en noir et blanc et c'est un mélange de ces 2 genres, c'est à la fois un mélo, une comédie avec un humour souvent noir, c'est aussi un drame social. Alors peut-être que certains trouveront qu'il parle d'une époque révolue en matière de rapport entre hommes et femmes. Moi, j'en suis pas sûr, hein, au contraire, moi. Bien sûr, il faut pas généraliser. Tous les hommes de cette époque n'étaient pas si abjects avec leurs femmes. Mais c'est quand même aussi le cas aujourd'hui qu'il y a des hommes qui se comportent ainsi. Il y a qu'à lire les rubriques des faits divers ou regarder certains documentaires ou reportages sur la condition des femmes à la télévision, sans aller à l'étranger. Même en France, on a ce genre de rapport entre hommes et femmes, quelquefois. Donc, c'est un film intéressant, tant sur la forme. Alors, pas seulement parce que c'est en noir et blanc, mais il y a aussi, par exemple, cette façon de suggérer la violence plutôt que de la montrer frontalement. Elle est évoquée à travers des chansons chorégraphiées. C'est donc un film intéressant sur la forme, mais c'est aussi intéressant sur le fond, avec une interprétation remarquable. Puis c'est écrit et réalisé par une inconnue chez nous, Paola Cortalesi, qui traite à sa façon d'un patriarcat nocif, de la condition de la femme. C'est un film que j'ai beaucoup aimé, mais je suis pas sûr qu'il fait l'heure 58 annoncée, parce que moi, ça m'a un peu plus court. Oui, il a annoncé l'heure 58, et moi, il m'a semblé qu'il faisait un petit peu moins, mais bon.
C'est parce que ça passe vite.
Non, mais vraiment. Non, c'est pas parce que ça passe vite, c'est vraiment. Donc, Il reste encore demain, c'est proposé par le cinéma Les Cinéastes, avec 2 séances par jour. Heureux gagnant. Alors, on change radicalement de genre, on passe à la comédie d'humour noir, et c'est un film qu'on peut voir au Méga CGR, au Pathé Quinconce et au Colisée. Heureux gagnant, c'est un film de Maxime Govard et Roman Chouaï, je ne sais pas comment on doit dire. Les deux sont réalisateurs et scénaristes, et Maxime Govard est aussi un acteur. Il avait réalisé en 2014 Toute Première Fois, co-réalisé avec Noémie Saglio. C'était un film avec Pio Marmaille et Lannick Gautry. 2017, Daddy Cool, avec Vincent Elbaz et Laurence Arnay. 2019, Les Crevettes Pailletées, co-réalisé avec Cédric Le Gallo. Et 2021, La Revanche des Crevettes Pailletées, toujours co-réalisé avec Cédric Le Gallo, pour Roman Chouaï. C'est ton premier long métrage. Pierre, vous en dites plus sur Heureux Gagnant.
Durée 1h43.
Là, c'est vrai.
Avec Audrey Lamy, Fabrice Eboué et Anouk Grimberg.
Et d'autres, oui.
Oui, d'autres, mais enfin, c'est la voilà, principale cité. Le synopsis, une chance sur 19 millions, plus de probabilité d'être frappé par une météorite que de gagner au loto. Pour nos heureux gagnants, le rêve va rapidement se transformer en cauchemar et leur vie va voler en éclats dans un spectaculaire feu d'artifice de comédie noire et de sensations fortes. La revue de presse, Le Figaro avec Valérie Beck, cette comédie noire bien corsée et servie par une belle distribution pourrait changer notre regard sur le loto. Le Parisien avec Catherine Ball, cynique, délicieusement noire. Cette comédie enchaîne les situations délirantes avec gourmandise. Dans une distribution savoureuse, il y a Pauline Clément aussi d'ailleurs, Anouk Grimberg pris par son génie comique. Télé 7 jours avec Julien Barcillon, joliment servi et rondement mené, ces 4 pastilles euphorisantes redorent le blason d'un genre un peu daté qui s'avère ici hautement réjouissant. Première avec Thierry Chaise, la promesse de l'entame n'est pas entièrement tenue, la faute à 2 segments pêchant par inventivité dans leur rebondissement, pourtant un sketch vaut à lui seul le déplacement. 20 minutes avec Caroline Vier, les histoires sont culottées et l'image a été soignée, ce qui n'est pas si courant dans ce genre, où on se fiche très souvent que les actrices ne soient pas montrées de façon flatteuse. Paris Match avec Fabrice Leclerc, écriture violente et vacharde, parfois à la limite du respectacle. Galerie d'auteurs extra, Pauline Clément, Samy Outalabali. Voilà un savoureux jeu de massacre maquillé en gentil divertissement. C'est tout.
Eh bien, Heureux Gagnant, c'est proposé au Méga CGR, au Colisée et au Pathé Quinconce. Donc, 4 sketchs qui tendraient à prouver que gagner le gros lot au loto ne ferait pas le bonheur. Bien au contraire, puisque au moins 3 des 4 histoires se terminent très loin d'un happy end. Alors, il y a longtemps que je n'avais pas vu une comédie française qui assume jusqu'au bout son humour noir. Alors, il y a d'abord, premier sketch, cette famille dysfonctionnelle, comme on dit aujourd'hui. C'est-à-dire, ils ont un gros contentieux entre le père radin, couard, mesquin, et sa femme qui lui en fait le reproche. Et puis, derrière, dans la voiture, il y a les 2 ados qui comptent les coups. Donc ça, c'est le premier sketch. Ils sont sur la route des vacances et ils découvrent qu'ils ont gagné le gros lot. Mais le problème, c'est qu'ils doivent impérativement se rendre dans un centre de récupération des gains avant 19h pour toucher la somme. Or, ils sont en plein embouteillage et l'heure tourne. Voilà, donc deuxième sketch. C'est une gentille jeune femme, c'est Pauline Clément, toute simple, pleine de générosité, qui vient elle aussi de gagner le jackpot. Elle est renversée sur un passage pour piétons par un type, un beau gosse, intelligent, prévenant, lancé dans l'action humanitaire. Mais sa meilleure amie met en garde la gentille jeune fille contre les types intéressés aux apparentes bonnes manières. Et là aussi, eh ben, y aura de la surprise. Troisième sketch, c'est un trio de terroristes islamistes, c'est assez gonflé comme sketch, qui juste avant leur attentat suicide découvrent qu'ils ont le ticket gagnant. Alors là, je vous dis pas, c'est assez drôle, et ça, la façon dont ça se termine, c'est, j'ai rarement vu ça dans le genre humour noir en France. Et puis enfin, ben, le dernier sketch, c'est les employés d'un EHPAD qui s'approprient le ticket gagnant d'un pensionnaire qui vient de succomber à une crise cardiaque en découvrant en direct la nouvelle, c'est qu'il a gagné, bien entendu. Alors, quatre situations très différentes, beaucoup d'humour noir, mais alors d'humour très noir, et des auteurs qui osent aller loin et se foutent donc du happy end consensuel. C'est drôlement féroce, et si comme moi vous appréciez ce genre d'humour cynique, vous allez adorer ce film. On est dans la filiation des films à sketch italiens, encore il revient des années 60, comme Les Nouveaux Monstres, Les Monstres et puis Les Nouveaux Monstres ensuite. Ou plus près de chez nous, ben Infidèle, le film avec où il y avait Jean Dujardin, Gilles Lelouch, etc. Bref, c'est de la comédie noire avec une très belle distribution. Moi j'ai beaucoup aimé, mais il faut aimer l'humour noir et l'humour très noir. Voilà, ça s'appelle Heureux Gagnant. Dans Heureux Gagnant, on entendra tout à l'heure Jean-Jacques Goldman, mais en attendant, on reste avec la chanson italienne. Daniele Silvestri à Bocca Chiusa sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans, et c'est un titre que l'on entend dans Il reste encore demain à Bocca Chiusa.
Fatece largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sopererò e andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. Ma a me di questo sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo. O forse per decenza, che partecipazione certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi, né armi per difendermi, né caschi per nascondermi, o santi a cui rivolgermi. Ho solo questa lingua in bocca e forse un mezzo sogno in tasca e molti, molti errori brutti. Io però li pago tutti. Fateci largo che passa il corteo e si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura, ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so sempre quelle, ma è uscito il sole, a me mi sembrano più belle, scuola e lavoro. Temi originali, se non per quella vecchia idea d'essere tutti uguali e senza scudi per proteggermi, né armi per difendermi, né caschi per nascondermi, o santi a cui rivolgermi con solo questa lingua in bocca. E se mi tagli pure questa, io non mi fermo, scusa, canto pure a bocca chiusa. Mm-hmm. bocca chiusa, guarda quanta gente c'è che sa rispondere dopo di me, a bocca chiusa. Guarda quanta gente c'è,
a bocca chiusa.
Guarda quanta gente c'è,
a bocca chiusa.
A bocca chiusa, Daniele Silvestri, un titre que l'on entend dans le film Il reste encore demain. Les rois de la piste, les rois de la piste, on passe au méga CGR et au pâté quinconce pour les voir. Et on écoute Pierre.
Durée 1h56 avec Fanny Ardant, Mathieu Kassovitz et Laetitia Doche. Le synopsis, Rachel sort de Madalton à élever ses fils Sam et Jérémy et son petit-fils Nathan dans le culte de l'arnaque. De plan foireux en petit larcin, cette sympathique famille de bras cassés court toujours après le gros coup. Chance ou fatalité, lors d'un cambriolage, ils volent sans en connaître sa valeur une toile de Tamara de Lempicka. Céleste, une détective rusée et charmeuse, et Gauthier, son fidèle acolyte, se lancent à leur poursuite. La revue de presse, elle, avec Françoise Delbecq, une comédie loufoque et joyeuse. L'Obs, avec Xavier Le Herpeur, en tête de ce casting bigarré, Fanny Ardant, plus impériale que jamais, interprète une partition cousue sur mesure avec une ébouriffante virtuosité. Le Parisien, avec Catherine Ball, un film enlevé et pétillant. Ouest France, une comédie savoureuse et rocambolesque. Positif avec Philippe Rouyer en entraînant sa brochette de stars dans des situations folles, Cliffa obtient une intensité et une émotion qui valent l'achat d'un ticket de cinéma. Les Inoccupables avec Jean-Baptiste Morin, une bonne comédie bien rythmée, drôle, menée tambour battant par une troupe de comédiens et comédiennes brillants qui n'ont peur de rien. Première avec Thierry Chaise, c'est fin, léger, joyeux et profond à la fois. La Croix avec Corinne Renoux-Nativelle, cette comédie policière qui place en son cœur une famille de pieds nickelés, commence sur les chapeaux de roue, mais s'épuise assez vite malgré sa distribution. Et enfin le Journal du Dimanche avec Barbara Théat, si les comédiens prennent un plaisir évident et presque communicatif à en faire des tonnes dans cette comédie familiale et policière, ils n'arrivent malheureusement pas à compenser une intrigue qui part dans tous les sens sans aller vraiment nulle part.
Alors je ne l'ai pas précisé, c'est réalisé par Thierry Cliffa, réalisateur et scénariste, à qui l'on doit en 2003 Une vie à t'attendre avec Nathalie Baye et Patrick Bruel. 2006, Le héros de la famille avec Catherine Deneuve et Gérard Lanvin. 2010, Les yeux de sa mère avec Catherine Deneuve et Géraldine Pellas. Et 2016, Tout nous sépare avec Catherine Deneuve et Diane Kruger. Les rois de la piste, c'est un scénario malin, des acteurs excellentissimes. Alors je vais citer Laetitia Doche, Mathieu Kassovitz, Ben Attal, Nicolas Divauchel, Michel Vuillermoz et Fanny Ardant. Voilà. Et donc un casting 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles pour camper les membres de cette famille de cambrioleurs ou ceux qui les poursuivent, car il est ici question d'un cambriolage qui tourne mal. Alors ce cambriolage a été organisé par la matriarche Rachel, il a été exécuté par ses deux grands-fils, Sam et Jérémy, et son petit-fils Nathan. Ce dernier se fait arrêter et il va faire 3 ans de prison pendant que le cadet disparaît avec un tableau de Tamara de Lempicka, d'où l'intervention de 2 détectives chargés de retrouver ce tableau pour les assurances. Et retrouver ce tableau, pour cela il va falloir en quelque sorte s'infiltrer dans la famille. C'est un film qui est à la fois une comédie, un thriller, un film romantique et qui parle aussi beaucoup des relations compliquées au sein de cette famille. Alors, dans cette famille, donc à sa tête, il y a Rachel. Rachel, c'est une mère aimante, rebelle, anticonformiste, autoritaire. C'est le cerveau de la bande composé de ses 2 fils et son petit-fils qui ont été élevés dès le plus jeune âge dans le goût de l'arnaque et des combines. Certes, le film est un petit peu long, 1h56, mais globalement, voilà un film extrêmement réjouissant et très divertissant. L'histoire est pleine de fantaisie, d'énergie, mais ce sont surtout les rapports entre les personnages qui font l'intérêt de cette histoire gentiment amorale, où alternent moments drôles, moments graves, moments émouvants et rebondissements. C'est une vraie bonne comédie, sans une once de vulgarité, et même au contraire assez classe. Et puis alors, quel plaisir de voir des acteurs jouer de cette façon-là. Fanny Ardant, Mathieu Kassovitz, Nicolas Divauchel, vous allez le voir dans un rôle qui est complètement à contre-emploi. C'est vraiment un festival, ça pétille. Je pense que les acteurs ont dû vraiment adorer jouer parce que ça se voit à l'écran. Les Rois de la Piste. Les Rois de la Piste, c'est au Méga CGR et au Pâté Quinconce. Dans un autre genre, Dans la peau de Blanche Houellebecq. Alors, Dans la peau de Blanche Houellebecq, c'est proposé uniquement au Colisée. C'est un film de Guillaume Niclou. Guillaume Niclou, c'est un réalisateur, scénariste et même acteur à l'occasion français. Il a commencé par le court-métrage, des téléfilms. Et puis, il a à son actif une bonne vingtaine de films. On va en citer quelques-uns. En 90, le premier s'appelait Les Enfants Volants avec Anémone. Moi, ça me dit rien du tout. Mais par contre, en 98, je me souviens avoir vu Le Poulpe avec Jean-Pierre Darroussin, Clotilde Courau. Et puis, en 2001, Une affaire privée avec Thierry Lhermitte. 2003, Cette femme-là avec Juliane Balasco et Eric Caravaca. 2006, Le Concile de Pierre avec Monica Bellucci et Catherine Deneuve. 2006, La Clé avec Guillaume Canet et Marie Gillin. 2010, Holiday avec Jean-Pierre Darroussin et Judith Godrèche. 2013, le début de ce qui sera la trilogie Michel Houellebecq, L'Enlèvement de Michel Houellebecq avec donc Michel Houellebecq. 2013, La Religieuse avec Isabelle Huppert. 2015, Valley of Love avec Isabelle Huppert et Gérard Depardieu. 2015, The End avec Swann Harlow et Gérard Depardieu. 2018, Les Confins du Monde avec Gaspard Ulliel et Guillaume Guix. 2019, deuxième volet de la trilogie Houellebecq, c'était Thalasso avec Depardieu. 2021, Les Rois de l'Arnaque, un documentaire pour Netflix. 2023, La Tour, un film fantastique qui m'avait un peu agacé, parce que c'était très 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 compliqué. Et puis, il a réalisé des séries comme Kabul Kitchen, des épisodes de séries de Kabul Kitchen, Guillaume Niclou. Allez Pierre, dis-nous en plus sur Dans la peau de Blanche Houellebecq.
La durée 1h28 avec Blanche Gardin, Michel Houellebecq et Luc Schwartz. Le synopsis, en Guadeloupe, Blanche Gardin préside un concours de sosie consacré à Michel Houellebecq. Michel s'y rend, mais des événements imprévus vont plonger notre duo au cœur d'une intrigue rocambolesque. La revue de presse, L'Obs avec Nicolas Chaler, derrière les quiproquos aberrants et les dialogues souvent hilarants, pointe les questions du colonialisme et les réflexes de domination raciste. Le Figaro avec Bertrand de Saint-Vincent, Guillaume Niclou met en scène Blanche Gardin et l'écrivain pour une fable pleine d'autodérision sur le devoir de silence, hilarant. Le Parisien avec Michel Valentin, Gardin et Houellebecq forment un duo qui n'évolue pas du tout dans la direction que l'on pourrait imaginer. Les deux, jamais avares d'autodérision, franchissent à plusieurs reprises les limites du politiquement correct. Le Journal du Dimanche avec Baptiste Thion, c'est souvent drôle, un peu chaotique, surtout d'une remarquable intelligence. Le Monde, on rêvait un peu que ces deux-là se rencontrent, même dépression dans le regard, même comique indolent. Le rapprochement de ces deux corps suffit à provoquer un comique visuel, l'évidence d'un duo de cinéma étrangement émouvant. Libération avec Lelo Jimmy Battista, une comédie trash, pas assez raide pour totalement convaincre, mais beaucoup plus inspirée qu'elle n'en a l'air, et renouant assez joyeusement avec les sciences oubliées de la voltige sans filet, du lustre crasseux et du carnaval désorganisé. Paris Match avec Yannick Velli, c'est bien sûr très inégal, mais quand le rire du malaise fonctionne, le flegme dépassé de Michel Houellebecq et le punch créole de Blanche Gardin créent un cocktail détonnant que la mise en scène faussement improvisée rehausse du poivre de la gêne des personnages secondaires. Première avec François Léger, l'idée est assez géniale pour propulser un film forcément bancal, mais souvent tordant où rien n'est tout à fait vrai ni complètement faux. Télérama avec Jacques Maurice, hybride, foutraque et débridé, Dans la peau de Blanche Houellebecq confirme le talent très spécial de Guillaume Niclou, franc-tireur, provocateur et expérimentateur, capable de fusionner l'engagement politique avec la dérision la plus forcenée. Et puis ceux qui n'ont pas aimé Marianne avec Olivier De Bruyne, au final ce petit film invertébré confirme involontairement que la rencontre entre Houellebecq et le cinéma n'a pas encore eu lieu.
Ah, bon. Ah oui. D'accord.
Et enfin, Cahier du cinéma avec Helen Boons, Guillaume Niclou renoue avec la veine fantaisiste de L'Enlèvement de Michel Houellebecq en 2014 dans ce mocumentari qui rate de près le virage du brillant pour dégringoler la pente de la dérision et de son corollaire, le vide.
Alors, je dois dire que je ne sais pas ce que c'est qu'un mocumentari. Hein. Je sais qu'un documentaire, un mocumentari, je ne sais pas pourquoi.
Je ne sais pas, c'est peut-être un moki,
Peut-être, je ne sais pas. Donc, j'ai de la chance cette semaine. Moi, j'ai vu que des films que j'ai aimés. Alors là, c'est Michel Houellebecq, le vrai, qui part en Guadeloupe accompagné d'un ami secrétaire garde du corps qu'on avait déjà vu dans les deux précédents film consacré à Michel Houellebecq, puisque c'était l'un des kidnappeurs du film L'enlèvement de Michel Houellebecq. Donc Michel Houellebecq part en Guadeloupe avec son garde du corps secrétaire pour retrouver Blanche Gardin, la vraie, et être les jurés d'un improbable concours de sosie de lui-même, oui, de sosie de lui-même, de Michel Houellebecq. Quand vous allez voir, bon, passons. Voilà pour le pitch de départ d'un film complètement déjanté. En grande partie improvisée, semble-t-il, qui, au milieu de rocambolesques aventures sous l'effet de l'alcool, de diverses drogues, évoque, dans des scènes qui arrivent un petit peu comme un cheveu sur la soupe, des questions beaucoup plus sérieuses comme la colonisation, l'esclavage, l'appropriation culturelle, le désir d'indépendance, mais aussi les pas de côté commis par Houellebecq, déclarations passées controversées, interview avec Michel Onfray qui avait été assez polémique. Ça donne un mélange de documentaire et de fiction complètement azimuté, un film délirant, c'est un sommet d'autodérision de la part des deux principaux protagonistes dans le droit film des deux précédents films consacrés par Guillaume Niclou à l'auteur des Particules élémentaires, avec des dialogues complètement incroyables, délirants. C'est drôle de bout en bout parce que c'est complètement décalé. Mais si c'est bien une comédie, c'est complètement à l'opposé de ce qui se pratique habituellement dans ce genre de production française, avec une Blanche Gardin qui est au sommet de son art dans ce rôle de femme à la fois bienveillante et caustique à l'égard de Michel Houellebecq, qui lui est complètement à l'ouest. C'est un sommet de comédie foutraque, mais il faut vraiment aimer ce genre de, là aussi, d'humour, qui n'est pas du tout l'humour consensuel. Ça ne passera pas à 21h sur une grande chaîne, ce film-là, c'est à peu près certain. Dans la peau de Blanche Houellebecq, c'est donc au Colisée. Chronique de Téhéran, on repart cette fois-ci au cinéaste. Chronique de Téhéran, c'est un film réalisé par Ali Asghari et Alireza Khatami. Les deux sont iraniens, réalisateurs et scénaristes. Ils ont à leur actif des courts-métrages. Et puis Ali Asghari, en 2022, avait réalisé Juste une nuit. Et Alireza Khatami, en 2017, Les versets de l'oubli. De quoi est-il question dans ce film d'une durée d'une heure 17? Eh bien, un homme déclare la naissance de son fils. Une mère habille sa fille pour la rentrée. Un élève est convoqué par la directrice. Une jeune femme conteste une contravention. Une jeune fille se présente à un entretien d'embauche. Un jeune homme vient retirer son permis de conduire. Un homme au chômage répond à une annonce. Un réalisateur demande une autorisation de tournage. Une femme cherche à retrouver son chien. Donc, 9 visages de la vie quotidienne à Téhéran. Michel Levieux dans L'Humanité parle d'une œuvre radicale. Étienne Sorin dans Le Figaro, une vision éclairante de la société iranienne à travers 9 scénettes qui pointent le totalitarisme ambiant. Stéphanie Belpèche, le journal du dimanche, en est frappée par la lucidité implacable de ce film choral, drôle mais désespérant, qui tient sa force de son dispositif unique. Catherine Ball dans Le Parisien, ces 9 scénettes nous plongent dans le quotidien de la vie à Téhéran et la mise en scène illustre puissamment le dialogue impossible entre des individus et le rouleau compresseur d'une administration et de règles religieuses intransigeantes. Thomas Borès dans Première, le duo de cinéastes nous place du côté d'un mal que l'on ne voit pas. Le geste est implacable. Nicolas Moreno, dans Les Incorruptibles, tourné en à peine 7 jours, le film souligne un certain état d'urgence à dépeindre l'enfer quotidien des Iraniens et des Iraniennes, à filmer pour se souvenir, mais aussi pour combattre. Thierry Chasse dans West France, l'humour est ici une arme de dénonciation massive et terrassante. Xavier Lerper dans L'Obs, à chaque fois l'incriminé et eux nous prend à témoin avec un regard face caméra, pendant que tenu hors champ, les représentants d'un état liberticide cisèlent leur coup bas. Sur la longueur, le principe théâtral et conceptuel finit tout de même par montrer ses limites. L'élogie mi-Battista dans Libération, concis, inspiré et extrêmement mordant, Chronique de Téhéran est aussi progressivement anesthésié par son dispositif très répétitif qui en atteignit un peu la force. Alors Pierre.
Alors Chronique de Téhéran, évidemment Chronique c'est au pluriel, puisqu'il s'agit en effet de 9 histoires sous forme d'interrogatoire en plan séquence, la caméra fixant la personne interrogée tandis que l'intervieweur lui se cache derrière la caméra. Alors cela pourrait paraître très ennuyeux, mais en fait 9 séquences de la vie ordinaire en Iran en 1h17, cela passe très vite. Au travers de ces 9 visages, on devine aisément le régime totalitaire de ce pays où pouvoir gouvernemental et religion se confondent et où la dictature frise le ridicule. L'humour est en effet dans ce film une espèce de soupape qui permet de rire un peu face à l'oppression omniprésente des mollards iraniens. Dans ce long métrage de fiction, les femmes comme les hommes ont leur mot à dire ou pas.
Voilà, Chronique de Téhéran proposée par les cinéastes, 1h17, deux séances par jour pour ce film que Pierre vous recommande.
Oui, quand... ah oui, oui, de toute façon, c'est, là encore, c'est de l'humour grinçant. Hein.
Alors, maintenant, quand la musique est bonne, Jean-Jacques Goldman, je vous l'avais annoncé, c'est un titre qu'on entend à deux reprises dans le film Heureux Gagnant et qui a son importance dans l'histoire. Mais si vous allez voir le film, vous le comprendrez facilement. Donc, quand la musique est bonne, Radio Alpa, Jean-Jacques Goldman. Jean-Jacques Goldman, quand la musique est bonne, un titre que l'on entend à deux reprises au moins dans le film Heureux Gagnant. Voilà, on passe à La Nouvelle Femme, un film français de Léa Todorov, réalisatrice et scénariste donc française. Donc c'est le premier long métrage proposé par le cinéma Les Cinéastes avec une ou deux séances par jour, plutôt souvent une que deux, mais bon, c'est comme ça. La Nouvelle Femme... Ça dure 1h39. En 1900, Lily Dallangy, célèbre courtisane parisienne, a un secret honteux. Sa fille Tina, née avec un handicap, peu disposée à s'occuper d'une enfant qui menace sa carrière, elle décide de quitter Paris pour Rome. Elle y fait la connaissance de Maria Montessori, une femme médecin qui développe une méthode d'apprentissage révolutionnaire pour les enfants qu'on appelle alors « déficients », entre guillemets. Mais Maria cache elle aussi un secret, un enfant né hors mariage. Ensemble, les deux femmes vont s'entraider pour gagner leur place dans ce monde d'hommes et écrire l'histoire. Alors, les actrices principales sont Jasmine Trinca et Leila Bekti. Pauline Conradson dans Le Parisien, le film assez classique, nous éclaire sur ce bout d'histoire et offre des scènes vraiment touchantes et de beaux portraits de femmes que tout oppose au départ et qui finissent par se comprendre et s'entraider. Pascal Vergerot dans Ouest France parle d'un premier film romanesque et éclairant. Laurent Gian dans Télé 7 jours, un drame poignant et dense sur l'acceptation de la différence, réalisé avec une infinie délicatesse. Véronique Coapé dans Le Monde, biopic féministe, aussi pédagogique que son sujet. Le premier long-métrage de fiction de Léa Todorov n'échappe pas à la démonstration, ni aux scènes d'émotion attendues et surlignées. Elisabeth Franck-Dubat dans Libération, sans doute y avait-il dans ce condensé un peu indigeste la matière de plusieurs films plus convaincants. Xavier Lerper dans L'Obs pour son premier film, la cinéaste qui veut à la fois éviter de tomber dans le biopic pur jus et insuffler un soupçon de romanesque dans cette histoire vraie, articule son récit autour de la relation d'abord hostile puis complice entre les deux femmes. Un ressort hélas sans grande tension. La mise en scène fait dans l'illustratif et la joliesse, là où un soupçon de rugosité eût été nécessaire. Ni Pierre ni moi ne sommes allés voir la nouvelle femme. Moi, c'était prévu et puis j'ai changé mon programme au dernier moment et j'étais plus dans la possibilité de voir le film La Nouvelle Femme, mais bon, je pas forcément beaucoup de regrets. Scandaleusement vôtre, ben c'est un film anglais, hein, et c'est un film réalisé par je sais plus qui d'ailleurs.
Téa Sharrock.
Voilà, et donc
par Johnny Sweet.
Voilà. Téa Sharrock, réalisatrice, scénariste, productrice britannique née en 76, elle avait jusqu'alors réalisé des épisodes de série et en 2016 Avant toi, un long métrage qui ne me dit rien, et puis en 2020 pour Disney+, le seul et unique Ivan. Alors Pierre, tu nous en dis plus sur Scandaleusement vôtre.
Durée 1h40, titre anglais Wicked Little Letters. Le synopsis, ah bon, je vais citer les acteurs, d'abord Olivia Colman, Jesse Buckley et Aniela Vassan.
Et c'est proposé par les cinéastes.
Oui, le synopsis Little Anton, 1920. Lorsque Edith Swan commence à recevoir des lettres anonymes truffées d'injures, Rose Gooding, sa voisine irlandaise à l'esprit libre et au langage fleuri, est rapidement accusée des crimes. Toute la petite ville concernée par cette affaire s'en mêle. L'officière de police Gladys Moss, rapidement suivie par les femmes de la ville, mène alors sa propre enquête. Elle soupçonne que quelque chose cloche et que Rose pourrait ne pas être la véritable coupable, victime des mœurs abusives de son époque. La revue de presse, L'Humanité avec Michael Mélinard, ressort aussi de cette comédie la fantaisie, la justesse et le talent de l'incroyable Jesse Buckley face à la toujours impeccable Olivia Colman. Elles sont la plus grande réussite de ce film ludique, plaisant et gentiment subversif. Le Figaro avec Constance Jamet, une comédie à l'ancienne, pétillante et cruelle, où les actrices se complètent à merveille. Le Journal du Dimanche avec Barbara Theat, voilà une comédie so British comme on les aime. Des sujets sociétaux abordés avec humour et portés par des dialogues savoureux, des personnages attachants interprétés par des comédiens qui cabotinent juste ce qu'il faut. Les Échos avec Adrien Gombeau, adapté d'un petit scandale survenu sous le règne de George V, Scandaleusement vôtre, témoigne d'une production britannique standardisée qui repose sur des comédiens surdoués et un collier de clichés assumés. La Croix, avec Corinne Renoux-Nativelle, menait tambour battant cette comédie douce-amère aux répliques ciselées jusque dans les diatribes salées inspirées du réel, assume joyeusement son trait forcé tout en soignant décor et images. Et je terminerai par ceux qui n'ont pas aimé Le Monde, étrange film qui, tout en visant la satire, s'organise pour être parfaitement inoffensif. Et enfin, Le Point, plus de suspense, une intrigue plan-plan et cousue de films blancs, le duo duel Olivia Colman, Jesse Buckley tourne vite en rond. On baille jusqu'au happy end de rigueur.
Ça s'appelle Scandaleusement vôtre. C'est proposé par les cinéastes avec deux séances par jour. On est en 1920 en Angleterre. Et d'après une histoire vraie qui, paraît-il, défraya la chronique à l'époque et eut même un retentissement national, on se trouve dans une petite ville du pays. Edith, une vieille fille cubénie, genre grenouille de bénitier, qui vit chez ses parents sous la férule d'un père tyrannique, macho-patriarcal, comme on ne disait pas alors, de la pire espèce, reçoit des lettres anonymes ordurières, mais vraiment ordurières. Les soupçons sur l'auteur de ces missives se porte immédiatement sur la voisine, Rose, une jeune femme libre, veuve de guerre, qui vit avec un compagnon sans être mariée avec lui. En plus, il est noir. Et avec sa petite fille, née, semble-t-il, d'une précédente union. Bref, la police ne se pose pas beaucoup de questions et inculpe Rose, mais quelques femmes du coin, notamment une jeune policière, ont de sérieux doutes sur la culpabilité de Rose et vont mener une contre-enquête qui va leur réserver bien des surprises. Donc là aussi, on a un film, on va dire, féministe, où les hommes sont loin d'avoir le beau rôle, que ce soit le père d'Edith, ou les policiers, hommes, qui sont tous plus bornés et méprisants à l'égard des femmes, les uns que les autres. C'est vraiment des machos de la pire espèce. Comme on en voit dans le film, il reste encore demain à croire que tous les hommes sont comme ça, mais enfin, franchement, bon, passons. C'est un film plaisant, plein de fantaisie, agréable, avec une solide interprétation, donc Jesse Buckley, que je connaissais pas, et Olivia Colman, des dialogues truculents, alors oreilles chastes, absolument s'abstenir, qui évoquent les préjugés d'une époque sur les femmes pour dénoncer l'attitude des hommes des années 20 et ainsi parler entre les lignes de notre époque. Voilà, donc c'est un film plein d'humour que j'ai assez apprécié, moi. Hein,
bon, merci. Ben, cette semaine encore, j'ai ressenti un parallèle entre les deux films que j'ai vus. Un humour cynique et grinçant, et aussi l'influence, pour ne pas dire l'oppression, qu'exercent les religions, ainsi que la place de la femme dans certaines sociétés. Ici, nous sommes dans l'Angleterre des années 20, nous sommes en bord de mer. Années 20, époque où les filles mères sont très mal vues, voire bannies de la société. Ce film, sous forme d'enquête, n'est ni du Hitchcock, ni du Agatha Christie, puisque l'on découvre en fait le vrai coupable bien avant la fin. L'histoire est à l'image de l'Angleterre, à la fois moderne et traditionnelle, et que dire des dialogues truculents à souhait, et en conséquence drôles. La distribution est à la hauteur. D'ailleurs, tous les rôles, même secondaires, ont leur importance dans ce film. Je n'aurai qu'un mot, excellent.
Voilà, ça s'appelle Scandaleusement Vôtre, c'est en VO bien entendu, puisque c'est au cinéaste, et il y a 2 séances par jour. On reste au cinéaste, The Sweet East, c'est un film qui a une seule séance par jour, c'est un film de Sean Price Williams, d'une durée d'une heure 44, Sean Price Williams, acteur, réalisateur, directeur de la photo américain, qui avait co-réalisé en 2011 Eyes Find Eyes, co-réalisé avec Jean-Manuel Hernandez. Ça ne me dit rien du tout. Eyes Find Eyes.
Non.
The Sweet East, 1h44, Liliane, jeune lycéenne, fugue dans un voyage scolaire, durant un voyage scolaire. Au fil de ses rencontres, elle découvre un monde insoupçonné. Les fractures mentales, sociales et politiques des États-Unis, filmées comme un conte de fées ou une variation d'Alice au Pays des Merveilles. Qu'en pense la presse? Eh bien, Arnaud Allais dans Les Inrecuptibles. Le film est une variation autour du road movie, conte à tiroir, où chaque fantaisie s'évanouit dans la suivante, sans crier gare, soumis à la seule volonté d'une innocence farouche. Constance Jamais dans Le Figaro. Que serait le cinéma d'auteur américain sans ses road trips et ses parcours initiatiques? The Sweet East de Sean Price Williams est une des belles pépites dénichées l'an passé par le Festival de Deauville, qui lui a donné à juste titre le prix du jury. François Léger dans Première, le film survit à toutes ses ruptures de ton grâce à un humour noir, féroce et à la performance incroyable de son héroïne Talia Ryder, qui hypnotise la caméra à la seule force de quelques mous et de ses yeux gris-bleus. Déjà la révélation de l'année. Thierry Chaise dans Ouest France, si le film part un peu dans tous les sens, il raconte le chaos post-Trump avec une acuité saisissante. Renaud Baronian, le Parisien, se présentant non sans prétention comme une version moderne de Alice au Pays des Merveilles, qui voudrait dresser une photographie de l'Amérique marginale post-Trump, The Sweet East a plutôt tout d'une petite chose indépendante qui veut jouer sans jamais y parvenir dans la cour des grands, et s'avère au final assez inconséquente et d'un ennui profond. Stéphanie Bellepage, le journal du dimanche, variation d'Alice au Pays des Merveilles, option bad trip, le film résolument onirique lasse le spectateur avec son scénario tentaculaire et bavard. Sa mise en scène un brin poseuse reste le charisme insolent de la formidable Talia Ryder. 1h44 pour ce film proposé par les cinéastes que nous n'avons pas vu.
Ah non, parce que les horaires n'étaient pas faciles. Hein.
Exactement. Allez, avant de nous annoncer les films pour la semaine prochaine, un peu de David Guetta et Sia, Titanium. On entend ce titre dans le film Les Heureux Gagnants.
Shut it out, but I can't hear a word you
David Guetta, Sia, Titanium, un titre que l'on entend dans Heureux Gagnant. La semaine prochaine, qu'allons-nous avoir? Eh bien, déjà, on commence par les avant-premières. Déjà, si vous nous écoutez en direct ce soir à 22h15 au Pâté Quinconce, il y a l'avant-première d'un film d'horreur qui s'appelle Immaculé, qui sortira la semaine prochaine. Et l'avant-première, c'est à 22h15, mais au Méga CGR, ça sera lundi à 20h. Dimanche, un film pour les enfants, Kung Fu Panda, numéro 4. Et oui, Kung Fu Panda numéro 4. Alors, vous avez la possibilité de le voir à 11h15 au Méga, à 13h30 au Colisée, à 13h45 au Pâté Quinconce et à 14h50, toujours Pâté Quinconce, mais en salle 4DX. Enfin, mardi soir... Ah non, si, lundi soir, il y a aussi une avant-première dans le cadre de Ma mère sans Mars. C'est au cinéaste, le film En attendant la nuit, c'est un film de genre, en présence de la réalisatrice Céline Rousset, à 20h lundi soir, donc au cinéaste. Mardi soir, ce sera Karaoké au Méga CGR, film avec Michel Larocque et Claudia Tagbo. La semaine prochaine, qu'allons-nous avoir? Alors, donc, on aura Hors saison, ça c'est sûr, de Stéphane Brisé avec Guillaume Canet. Karaoké, donc, avec Michel Larocque, Claudia Tagbo, c'est une comédie. Bon, donc, avant-première, je rappelle, mardi 19 à 20h au Méga CGR. Les cinéastes proposeront, bien sûr, Hors saison, je l'ai dit un instant, mais aussi La jeune fille et les paysans. C'est un film polonais, je crois bien. Bis Repetita aussi avec Louise Bourgoin et le documentaire très long, donc on n'ira pas le voir, Averroès et Rosa Parks de Nicolas Philibert. Et puis il y aura aussi Immaculé, donc le film d'horreur, avec donc avant-première dès ce soir à 22h15 au Pâté et lundi à 20h. Sachez aussi qu'il y aura l'avant-première jeudi 21 de La Promesse Verte, le film de, je ne sais plus le prénom, Bergeon, le gars qui avait fait le film Sur la Terre avec Guillaume Canet. 20h15 au Colisée. Il y a peut-être même aussi une avant-première jeudi soir au Méga CGR. Voilà, il y aura peut-être d'autres films, hein, mais cela, je vous l'ai garanti. Cette semaine, moi, je vous recommande tous les films que j'ai vus. Donc, si vous avez été attentifs, il y a Heureux Gagnant, Il reste encore demain, les Scandaleusement Vôtre, Les Rois de la Piste, et Pierre est sur le même fil que moi,
oui,
je pense.
Oui, les deux, oui, Scandaleusement Vôtre, c'est excellent. Et puis Chronique de Téhéran aussi, c'est intéressant.
Allez, c'est parti, à la semaine prochaine, si Dieu nous prête vie. Et donc, c'était Radio Alpa, clap, sur l'émission Cinéma avec Pierre.
Au revoir.
Au revoir.